Puisque tu mets un Dieu là-haut dans les cieux, alors qu'il n'y est pas, quand tu t'ouvres, quand tu médites, il est normal que tu ne reçoives rien, car tu envoies la balle là où il n'y a aucun mur pour la renvoyer. Par contre, rentre en toi-même, ouvre-toi à toi-même, et là tu rencontreras la divinité. Je te le dis, Dieu n'est pas extérieur, il est intérieur. Et si tu veux comprendre véritablement l'évolution, il faut méditer sur ce sujet profondément. Et maintenant, je vais répondre à la question. Pourquoi est-ce que la loi divine serait à l'encontre de l'exercice de tout ce qui est astrologie, médiumnité, voyance, guérison par invocation d'esprit, etc. Il ne faut pas imaginer que la loi, que Dieu soit à l'encontre de quoi que ce soit. À partir du moment où la chose est faite de façon juste et de façon divine. Pour comprendre la phrase, il faut se replacer à l'époque où elle a été dite. Il faut donc retrouver le contexte. Je viens de dire qu'autrefois, l'homme était, de façon naturelle, très superstitieux. La population était amplement fournie de la capacité de médiumnité. Et les sorciers faisaient grande boutique de tous les sorts à jeter ou à défaire. En fait, la sorcellerie est ce qu'il y a de plus vivace et de plus répandu quand l'homme est au balbutiement de son développement. Donc, si l'on veut comprendre ce qui est dit et la mise en garde qui est faite, il faut comprendre que l'Esprit divin mettait en garde les hommes à une époque où, étant encore trop sauvage et pas suffisamment développé dans l'amour et la connaissance de l'axe divin, ces hommes pouvaient commettre n'importe quelle aberration sur la base de n'importe quelle science qui, plus tard, s'est développée dans un acte lumineux et ésotérique. Aujourd'hui, il est complètement aberrant de penser que l'astrologie soit une science à l'encontre de Dieu ou que l'acte de la guérison, même si elle agit par invocation de nom divin ou de nom d'esprit, soit un acte diabolique. Cependant, à une époque où les hommes n'étaient pas suffisamment en relation avec leur propre âme et avec l'âme de la hiérarchie comme cela a lieu aujourd'hui, à cette époque-là, les hommes faisaient n'importe quoi avec l'énergie astrale dont ils disposaient. Cette énergie astrale n'était pas couverte par l'énergie mentale que l'homme connaît aujourd'hui. Automatiquement, les émotions étaient beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus primaires. C'est pourquoi chaque fois que l'homme désirait quelque chose, il entourait son désir de magie et jetait des sorts. Et il regardait pour cela l'heure la plus favorable pour jeter le sort. Donc il employait l'astrologie. Et par là même, l'astrologie devenait un instrument de sorcellerie. Car aujourd'hui, on ignore complètement que pour jeter un sort, il faut attendre une certaine heure astrologique. C'est pourquoi les jeteurs de sorts d'aujourd'hui se font vite expulser avec 2-3 maniements de baguette, avec un peu d'eau bénite et quelques grains de sel. Il n'est pas besoin d'être un grand exorciste, en tout cas pas dans tous les cas de figure. Tandis qu'autrefois, la chose était un véritable ensorcellement. Et il fallait un véritable exorciste. Le sorcier, et presque tout le monde était sorcier, savait choisir l'heure. Il connaissait le moment où les astres sont en désaccord suffisant pour déclencher une énergie de fracas, une énergie d'apocalypse, et ils envoyaient toute cette énergie grâce à des sceaux qui emprisonnaient cette énergie, et ils envoyaient donc toute cette énergie sur la personne qu'ils voulaient détruire, ou charmer, ou manipuler. Donc, l'astrologie s'est vue par la même taxée de diabolisme, mais elle n'y est pour rien. Seulement, l'homme arrive à transformer tout ce qu'il touche. Et avec un couteau qui est créé pour couper le pain, il en arrive à tuer son voisin. Avec l'astrologie, il en a fait de même. Avec la médiumnité, il en a fait de même. Mais ce n'est pas l'objet qui est en cause, mais l'utilisation qui en était faite. Et à une certaine époque où chacun était sorcier, parce que cela réglait la vie de tout le monde. Cette sorcellerie était très prédominante. C'était un commerce d'ailleurs que l'on faisait à même dans la rue, sans se cacher. Cela faisait partie de la vie, comme aujourd'hui, on se dit bonjour ou au revoir, ou que l'on attend au feu rouge. Ce qui fait que tout le monde avait développé une certaine connaissance pour contrecarrer le mauvais sort. Et chaque fois qu'il voyait un coup d'œil suspect ou un signe suspect, eh bien la personne réagissait en faisant un signe au contraire de protection. Ce qui fait que dans la rue, on voyait un balai très étrange de gens qui s'envoyaient des choses et de ceux qui les rejetaient. Pas le temps de se dire bonjour, comment vont vos enfants ? Tadam, tadam. La vie était très spectaculaire à ce moment-là. Et au balcon, tous les maîtres qui regardaient se demandaient quand est-ce que le cinéma allait se terminer. Et comme cela durait et durait encore, ils se sont dit en soupirant, non, ça ne peut plus aller, il faut réagir. Comment allons-nous faire? Si on coupe leur énergie astrale, ils risquent de ne plus être aussi vivants et aussi humains que ce qu'ils ne sont. Ils risquent même de ne plus autant être vibrants, même vis-à-vis de la divinité potentielle qu'ils représentent. Donc il ne faut pas trop couper l'énergie astrale. Il faut en mettre en sommeil un petit peu, et il faut les pousser à ne plus croire à l'astral. Alors, réagissons. Créons une grande contre-révolution. Nous allons inventer le matérialisme et l'athéisme. De ce fait, la sorcellerie n'intéressait plus personne. Et non pas parce qu'elle n'existait plus, mais parce que l'homme s'est dit « ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. Alors avec tes signes, tu peux toujours courir. » Je ne m'amuse plus à ces choses-là, je ne participe plus. Et c'est comme cela que petit à petit, le matérialisme a sauvé l'homme de la sorcellerie. Bien sûr, il ne faut pas rester matérialiste, ce n'est qu'une étape. Il faut ensuite s'ouvrir à la subtilité des mondes supérieurs. Mais en attendant que l'homme s'ouvre à la subtilité des mondes supérieurs, il est bon qu'il soit matérialiste. Sinon, il serait un de ces affreux sorciers qui lancent des sorts partout et qui fait régner la terreur et l'astral partout. L'astral n'a donc pas été touché, amoindri. Simplement une poudre a été jetée sur les yeux de l'homme. Et cette poudre disait « Ce que tu ne vois pas, tu ne le crois pas. » Et l'homme a obéi. Et il s'est dit « Ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. » Par là même, dans un effet second, l'homme qui ne voit pas Dieu et qui ne pouvait pas voir Dieu, par là même, cet homme n'a plus cru en Dieu. Mais peu importe. L'amour de Dieu est si grand que pour sauver ses enfants, il est prêt à accepter que l'on ne croit plus en lui. Car l'important, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de croire en Dieu, d'aimer un Dieu dans le haut des cieux. L'important, c'est d'apprendre soi-même à être un Dieu. Et s'il faut pour cela qu'un Dieu tombe dans l'oubli, il l'accepte. Il se dit, c'est pour que mes enfants deviennent le Dieu que je suis. Et il s'oublie, il se voile, il se cache. Puis un jour, la communion recommence. Et celle-là est une pure communion. Donc, si vous voulez comprendre toutes les phrases un petit peu énigmatiques du style de la question que vous m'avez posée, il faut chaque fois vous souvenir du contexte et de l'époque. Et pour véritablement en comprendre le sens, étudier les mœurs qu'il y avait à cette époque. S'il y avait de la sorcellerie, quels étaient l'axe des idées principales, de la religion principale et des dogmes de cette religion. Et vous verrez, avec humour, car cela vous fera rire, vous verrez que les principes d'une religion X sont en fait les démolisseurs de la religion qu'il y avait avant, la religion Z. Mais que ces principes ne sont encore pas la vérité. Mais que c'est la vérité qui permettait le mieux d'avancer et de se dégager des autres principes devenus trop retardataires ou restés trop primaires. Et de ce fait, vous comprendrez la valse des écoles initiatiques, la valse des temples, la valse des rituels qui viennent les uns après les autres en détruisant les anciens, en s'implantant comme victorieux. Et vous rirez de ces hommes qui croient détenir enfin et une bonne fois pour toutes la vérité, le temple, la lumière, la religion idéale, le rituel idéal. Vous sourirez, et ce sourire sera le signe que vous êtes rempli de sagesse et que vous êtes prêt à rencontrer la sagesse et à ne plus être à l'intérieur de ces temples qui passent, se dissolvent et renaissent. Vous êtes prêt pour le temple. Et à ce moment-là, vous ne rencontrez rien sur terre. Vous ne vous sentez pas capable d'appartenir à quoi que ce soit. Quelque chose en vous vous pousse à aller vers des temples parce que vous connaissez une aspiration spirituelle et en même temps quelque chose vous retient hors de ces temples. Alors vous vous regardez à l'intérieur et vous vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Est-ce que je veux ? Est-ce que je ne veux pas ? Et quand je ne veux pas, est-ce que... ce ne serait pas le signe que je ne suis pas si spirituelle que ça. » Alors je te le dis, ne te trompe pas de jugement. Ce n'est pas parce que tu n'es pas vraiment spirituelle que tu as envie de faire un pas mais que tu ne le fais pas. C'est parce que tu n'es plus fou de la folie des autres. Tu n'as plus envie de vivre ce film idiot, de croire un nouveau dogme. Et de brûler l'ancien dogme pour mieux croire au nouveau, celui qui vient. Tu as envie enfin de la vérité. Et alors je te le dis, si tu as cette envie, tu es prêt pour nous rencontrer, pour travailler avec nous. Mais en même temps que tu es prêt pour cette rencontre, tu seras désespéré de la proposition que l'on te fait. Car avant de nous rencontrer, ou avant de nous intuitionner, ou avant d'être adombré par nous, il va te falloir travailler, te changer, te transformer. Autant que ce que tu aurais fait dans le temple où tu serais entré sur la terre. Il est attendu le même effort de ta part. Et quand cela est accompli, alors la rencontre a lieu, que ce soit sur la terre ou que ce soit dans le ciel, que ce soit par l'âme toute seule, toute simple, ou que ce soit par la vision, la rencontre a lieu. Donc, je te le dis, travaille sur toi. Ne perds pas d'énergie à chercher un nouveau messie dans le corps d'un hindou ou de je ne sais trop qui. Ne perds pas d'énergie ni de temps non plus à croire que la méditation est ceci ou cela et à la faire selon ce que l'on te dit qu'elle est. Même si tu ignores tout ce que l'on te dit, tout ce à quoi on veut te faire croire parce que soi-disant cela a été donné par Dieu ou par les prophètes ou par un illuminé, même si tu ignores toutes ces choses, mais que tu es fondamentalement authentique avec toi-même, absolu dans tes décisions, absolu dans ton axe de vie. Je te le dis, tu rencontreras Dieu. Et mieux que de le rencontrer, je te l'affirme, tu es Dieu. Alors ne cherche plus. Assieds-toi. Sois simplement cette authenticité, cette pureté, cet absolu, et laisse Dieu couler à travers toi. Je ne peux pas te donner de meilleur engagement et encouragement que celui-là. Tout ce que tu crois que tu n'es pas, oublie-le. Moi-même, je m'y assois dessus. Et je n'écoute rien de ce que tu dis. Quoi ? Tu dis que tu es bête. Ce n'est pas grave, il y a plus bête que toi. Et puis tu dis que tu ne sais pas te concentrer. Si tu savais le mal que j'ai eu moi-même à apprendre la concentration, tu ne serais pas étonnée. Que toi aussi tu éprouves les mêmes lourdeurs. Tu es encore attaché au sexe. Mais on l'est tous, mon pauvre. Même Dieu, la preuve, puisqu'il est toi, c'est bien lui qui fait l'amour. Et puis je vais te dire une chose. Si tu crois que tu es attaché au sexe, quand je te dis que Dieu lui-même y est attaché, il faut que tu comprennes que la création dépend d'une seule et même énergie. Que tu crées un enfant, que tu crées une jouissance, un orgasme, une étoile, un monde ou une galaxie, c'est la même énergie. Donc si tu te plains d'être un peu trop attaché au partenaire, eh bien je te propose de faire l'amour avec les étoiles. Et tu verras que tu sauras non seulement ce qu'est véritablement cette énergie et tu ne t'en feras plus un problème moral, mais en plus tu deviendras un créateur encore plus grand. Et l'enfant que tu feras, si tu en fais un à ce moment-là, sera véritablement un enfant né des étoiles, car ton esprit saura aller le chercher là-haut et pas en bas. Alors, que vas-tu faire en sortant de cette salle? Est-ce que tu vas essayer de tout repenser, de redéfinir ta vie, redéfinir tes valeurs? Est-ce que dès demain, tu vas vivre ce chaos? Je ne t'y encourage pas. Ne redéfinis rien du tout. Ne repense rien. Laisse tout tel quel, comme une maison que tu quittes pour ne plus y revenir. C'est-à-dire demain, lorsque tu te rappelles comment tu pensais à propos de la divinité ou à propos du bien et du mal. Ne te dis pas « je pensais cela, j'avais tort, alors maintenant je vais penser cela et cela et cela parce que Pasteur nous l'a dit et que je crois Pasteur. » Si tu fais cela, tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit. Alors il faudra qu'on se revoie encore une fois et encore une fois. Et que l'on perde du temps au lieu que tu viennes t'asseoir à côté de moi et que nous fassions ensemble le travail. Ferme ta maison simplement comme un lieu où tu ne viendras plus. Ta première maison, tu l'as bâtie comme tu as pu. Tu as glané un peu d'ésotérisme par là, un peu de connaissance par là, un peu d'expérience par là. Et tu t'es bâti ton premier temple. Un premier temple qui ressemble un peu à la tour de Pise d'ailleurs. Ce n'est pas grave, rassure-toi. Tu as encore toute l'éternité pour apprendre comment bâtir l'univers. Calme-toi. Ferme la porte de cette première construction. Regarde-la et souris. Souris tout simplement. Si tu pouvais savoir combien l'humour permet de se sortir de tous ces attrape-nigauds. Combien l'humour est signe d'évolution et te permet d'évoluer, te permet de bouger, de changer, de quitter, de partir, sans avoir l'alarme triste ou le jugement sévère vis-à-vis de toi-même. Mais qu'est-ce que j'ai été idiot, se diront certains. Mais qu'est-ce que j'ai été bête. Mon Dieu, je ne dirai plus rien. Finalement, quand je parle, je ne fais que dire des bêtises. Je me ferme ma bouche et je promets de ne plus sortir un son. Si je te dis la vérité, ce n'est pas pour que tu réagisses de cette façon-là. Ce n'est pas pour que tu t'autocritiques et que tu te détruises. Emploie l'humour et regarde. Regarde ta bêtise, peu importe, elle n'est pas la tienne de toute manière. Elle n'a existé que le temps où tu ne connaissais pas la vérité. Et elle n'est pas toi. Alors souris, personne ne dit que tu es bête. Personne. Et surtout pas celui qui est sage, car il sait combien tu es capable, toi aussi, de sagesse et de connaissance. Donc, regarde et souris, ris très fort et commence à bâtir ta nouvelle maison, ton nouveau temple. Et là, oui, utilise ce que tu as entendu. Ou bien utilise ta nouvelle pensée, les nouveaux fonctionnements de ton esprit et le nouveau fonctionnement des lois à travers toi. Avec cela, bâtis une nouvelle maison. Mais attention, ne t'y attache pas. Car de la même façon qu'il t'a fallu quitter la première, il te faudra quitter la seconde. Car la seconde, bien que meilleure, est déjà plus avancée que la première, n'est encore pas le véritable temple. C'est pourquoi il te faut garder un grand humour pour te permettre la liberté de bouger et de changer à tout instant. Celui qui n'a pas cet humour n'a pas la liberté non plus, parce qu'il est orgueilleux. Un orgueilleux ne peut pas rire de lui-même. Observez dans la vie. Observez quelqu'un qui tombe par terre parce qu'il trébuche contre une pierre. La plupart des gens vont être très gênés, vont presque faire un tremblement nerveux dans leur corps, tellement ils se trouvent stupides, idiots, et ils vont dire « Mais ça n'arrive qu'à moi, j'ai été ridicule, je suis tombée devant tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont rire ? Mais qu'est-ce qu'ils vont rire ?» Ceci est la réaction de l'orgueilleux. L'orgueilleux ne peut pas rire de lui-même, c'est impossible. Car il est, n'est-ce pas? Et il doit toujours paraître. Car l'orgueil, ce n'est que cela. Ce n'est que du paraître. Et c'est pour cela qu'il est si fragile. C'est pour cela qu'il devient agressif. Parce que dès que le paraître est défait par un caillou qui le fait trébucher, alors l'homme ne sait plus qui il est. Et il se dit, si je ne suis plus cette apparence, et qu'alors, je suis vraiment moi-même, je ne suis rien. Et ce rien me dérange. Et j'en veux aux autres d'avoir réussi à faire sortir de moi ce rien que je suis. Et comme je leur en veux, eh bien, je les trouve laids. Et je vais les critiquer. Et je vais les trouver eux-mêmes idiots. Et celui qui va rire parce que je suis tombée, à celui-là, je promets ma gifle la plus magistrale. Et à cause d'un petit caillou qui se promenait là, qui était là pour rien et pour personne, voilà une grande bagarre de rue qui est déclenchée. Tout cela parce qu'à la base, l'homme a manqué d'humour. Ris de toi, ris de ce que tu croyais et qui n'était pas juste. Ton ignorance n'est pas ton identité. Et ton ignorance n'était pas ta stupidité. Tu ne dois pas associer ignorance et stupidité. Si tu fais cela, c'est que tu es orgueilleux. Cela veut dire que dans le cas contraire, tu diras « J'ai bien pensé, j'ai bien conçu, donc je suis très bien. » Mais dès que je me trompe, je ne suis plus personne, je suis l'horreur, je suis le diable, je suis l'idiot du village. Et j'ai honte, mais j'ai honte. Je peux faire quelque chose contre ton ignorance. Je ne peux rien contre ta honte. Car ta honte est ton fruit. C'est toi qui l'as produit. C'est toi qui l'as créé. Nous, nous n'avons rien créé de semblable. Nous essayons simplement de te tirer de l'ignorance. Alors, si tu veux que tout aille plus vite et mieux, libère tes énergies. Ris, ris, ris de toi, de ce que tu n'es pas ou de ce que tu n'es plus, et même de ce que tu seras, parce que ce que tu seras, ce n'est pas encore vraiment ce que tu peux être. Alors, dans cette vague et cette valse de non-sens, ris tout simplement. Je vous salue.
Nous saluons et nous remercions.